Bonjour à tous. Il y avait une petite fille pour un travail d'école. Elle se demandait la différence entre un homme impatient et un homme colérique. Donc, elle demande à son père, c'est quoi la différence entre un homme impatient et un homme colérique? Il dit, attends, je vais te montrer. Là, il prend son téléphone. Il compose un numéro au hasard. L'homme répond, oui, bonjour. Oui, j'aimerais parler à Thomas, s'il vous plaît, c'est important. Désolé, il n'y a pas de Thomas ici. Oui, oui, oui. Non, il n'y a pas de Thomas ici. Vous devriez vérifier votre numéro avant de composer, monsieur. OK. La petite fille, ben, je ne vois pas. OK, attends. Il recompose le même numéro. Oui, bonjour, j'aimerais parler à Thomas, s'il vous plaît. Là, là, ça fait deux fois que vous appelez ici, monsieur. Vérifiez, il n'y a pas de Thomas ici. Puis il raccroche. La petite fille, OK, mais je ne suis pas encore sûr de la différence. OK, attends. Il compose le même numéro. Et la personne répond, « Oui, qu'est-ce qu'il y a? » « Oui, bonjour, c'est Thomas. Est-ce que j'ai eu des appels un peu plus tôt? » Mais la petite fille, elle ne savait pas trop encore c'était quoi la différence. Parfois, la différence n'est pas très claire, même si on tente de l'expliquer. Puis si je vous demande la différence entre un chrétien et un non-chrétien, bien, on serait normalement capable de sortir une petite liste, là. Mais est-ce que ça se voit clairement? Est-ce que les chrétiens devraient être différents des autres ou devraient plutôt ressembler? Est-ce qu'on peut dire que les chrétiens forment une assemblée distincte des autres, une société distincte? Est-ce que les chrétiens et les serviteurs de Dieu sont d'abord des membres de l'Église ou ils sont d'abord des citoyens du monde, comme tous les autres êtres humains? Est-ce que les chrétiens ont plus de choses en commun avec les autres, avec les hommes et les femmes sur la terre, ou ils ont plus de choses qui les distinguent, plus de différences? Puis c'est une question qui a travaillé les dirigeants de l'Église dans toute l'histoire de l'Église, et l'Église a été tiraillée dans cela. Est-ce qu'on doit se rapprocher, ressembler, souligner, mettre l'emphase sur ce qui nous ressemble avec les autres gens dans le monde? Où on devrait plutôt mettre l'emphase sur ce qui nous distingue et mettre une claire distinction. Je crois que la Bible nous enseigne ces deux choses. C'est, premièrement, que nous avons plusieurs points en commun. Les chrétiens, les serviteurs de Dieu, ont de nombreux points en commun avec ceux qui ne croient pas en Dieu, avec tous les hommes et les femmes sur la terre. Mais je crois que la Bible met davantage l'emphase sur ce qui nous distingue, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Ce qui est constamment rappelé, et là où la Bible insiste, c'est sur ce qui nous distingue, ce qui fait que les chrétiens, les serviteurs de Dieu, sont différents. Et ce matin, nous allons étudier dans le livre d'Exode. En fait, nous reprenons notre étude dans Exode, que nous avions commencé l'année passée. Nous avions arrêté pour la pause de l'été. Et si je refais une petite historique de ce que nous avons vu, parce qu'avant cela, nous avions étudié la Genèse, parce qu'Exode fait suite directement à Genèse. La Genèse commence par nous montrer ce que tous les hommes ont en commun, c'est-à-dire que nous venons tous d'un ancêtre commun qui est Adam. Dieu a créé le monde, il a créé Adam et Ève, un homme et une femme, il les a placés sur la terre, et ils étaient parfaits à l'origine, et ils étaient en relation avec Dieu. Ce que nous avons tous en commun aussi, c'est que l'homme a péché. Lorsque Adam a péché, la race humaine, l'espèce humaine est devenue corrompue. Et nous avons tous péché. En Adam, nous sommes tous devenus coupables et nous avons tous de toute manière reproduit ces péchés. Et à cause du péché, l'homme a été condamné à mourir. Il est devenu mortel et il a perdu la bonne relation qu'il avait avec Dieu. Mais Dieu a annoncé un message d'espoir, alors même qu'il lançait ses malédictions. Il a annoncé un message d'espoir, puisque c'est Satan lui-même qui avait tenté, alors qu'il était sous la forme d'un serpent, qui avait tenté Adam et Ève et qui les a fait chuter. Mais Dieu dit que la descendance de la femme et la descendance du serpent seraient en inimitié, en conflit perpétuel, comme en guerre perpétuelle. Mais qu'un jour, la descendance de la femme allait un jour écraser celle du serpent. Donc, c'était un message d'espoir qu'un jour Dieu allait rétablir toute chose. Mais déjà, Dieu montrait une distinction. Il y a la descendance de la femme, et on le voit au courant de l'histoire biblique, qu'il s'agit de ceux qui sont pour Dieu, dans le camp de Dieu. Et la descendance du serpent, il s'agit de tous ceux qui sont contre Dieu. Et il y a une guerre constante, il y a une inimitié. Ceux qui servent Dieu ne sont pas aimés de ceux qui ne servent pas Dieu. Et c'est comme cela dans toute l'histoire biblique, et on le voit encore aujourd'hui. Et ça le sera jusqu'à la fin des temps. Plusieurs siècles plus tard, on voit Dieu tout à coup qui intervient. Et il prend un homme, Abraham, qu'il choisit. Il l'a élu. Et il lui dit, tu seras le père d'une grande nation. Et cette nation sera une concrétisation de la descendance de la femme, en fait. La nation qui va sortir de toi sera mon peuple. Je serai leur Dieu. Elle sera très nombreuse. Elle va hériter du pays même dans lequel je t'envoie marcher et explorer. Elle va hériter d'une terre promise, le Canaan. Et même toutes les nations de la terre vont être bénies dans cette nation, par cette nation. Et plusieurs années après, alors qu'Abraham n'avait pas d'enfant, Dieu donne un enfant à Abraham, Isaac, le fils de la promesse. Ensuite, Isaac a lui aussi un fils, bien, il a deux jumeaux, mais l'un c'est Jacob, que Dieu renomme Israël, qui devient le père de 12 fils, qui sont les 12 tribus d'Israël. Et c'est le début de la nation, le peuple de Dieu. Israël et sa famille sont ensuite sauvés d'une grande famine. Et ils sont envoyés en Égypte, plus précisément dans le territoire d'Égypte appelé Goshen, où ils se multiplient pendant des années. Et on voit que Dieu accomplit sa promesse puisqu'ils deviennent très nombreux. Et lorsque le livre d'Exode commence, c'est environ 400 ans plus tard, et le peuple, la petite famille d'Israël, Jacob, Israël, avec ses 12 fils et leurs femmes, qui avaient immigré en Égypte, sont devenus tellement nombreux que les Égyptiens en ont peur. Et même le Pharaon dit, ils sont plus nombreux que nous. Et si jamais ils se rebellent, ils vont avoir la victoire sur nous. Et ils en font leurs esclaves et ils les maltraitent. Mais on voit que ça faisait partie du plan de Dieu. Et Dieu entend leurs cris, leurs souffrances. Et il envoie Moïse pour les libérer. Et par le fait même, commencer l'accomplissement d'une autre promesse qu'il avait faite à Abraham de leur donner un pays. Parce qu'ils n'étaient pas chez eux en Égypte. Ils étaient sous l'esclavage et Dieu avait promis qu'il leur donnerait une terre où ils seraient les propriétaires, libres, et qu'ils auraient la victoire sur leurs ennemis. Et Dieu accomplit cette grande libération par la main de Moïse. Et Moïse s'est rendu devant le Pharaon pour lui demander de laisser partir Israël, où ils sont aussi appelés les Hébreux, pour sortir au désert pour adorer Dieu. Mais le Pharaon a refusé. Il ne voulait pas les laisser partir, il ne voulait pas laisser partir ses employés cheap labor. Et ça fait trois fois, déjà, on a vu les trois premières plaies. Ça fait trois fois que Moïse se présente devant le Pharaon. Bien, pour la troisième plaie, il n'a pas eu à se présenter. Et Dieu a montré sa toute-puissance en confondant, en envoyant. Bien, premièrement, Dieu a changé l'eau du pays en sang. Il a changé le Nil et même l'eau qu'il y avait dans les jars. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire. Ils ont dû creuser de nouveaux puits dans l'espoir de chercher de l'eau. Ça a duré 7 jours. Ensuite, on a vu Dieu qui a fait monter des milliers de grenouilles qui se sont multipliées, qui ont envahi le pays. Il y en avait partout, dans les chambres à coucher, dans les cuisines. Au point où est-ce qu'ils ont crié, et Pharaon a même demandé à Moïse, « Prie ton Dieu pour qu'il nous libère de cela. » Et Dieu a enlevé les grenouilles, mais le Pharaon ne les a pas laissés partir. Ensuite, il a envoyé il a fait changer toute la poussière du sol en moustique ou en poux. Ça dépend de la version que vous avez. Ce n'est pas évident à traduire ce mot-là. Il ne revient qu'une seule fois dans la Bible. Mais en tout cas, c'était un insecte nuisible qui se posait sur la peau. Et tout le pays en a été rempli et dévasté. Mais à chaque fois, le Pharaon a endurci son cœur et n'a pas laissé partir Israël. Et Dieu est maintenant sur le point de provoquer deux autres plaies que nous allons étudier aujourd'hui, la quatrième et la cinquième, pour soumettre de force le Pharaon, mais sachant qu'il ne va pas plier, mais pour démontrer sa puissance, mais aussi pour faire connaître un autre aspect qu'il n'avait pas encore vraiment souligné à Pharaon. Un autre aspect de son plan, c'est que son peuple, le peuple des Hébreux, est vraiment distinct. Et là, Dieu le souligne dans la quatrième et la cinquième plaie. Dieu prend la peine de le dire à Pharaon. Peut-être que Pharaon ne l'avait pas encore remarqué, mais les Hébreux n'étaient pas atteints des mêmes plaies que les Égyptiens. Donc, les Hébreux étaient distincts à cause de trois choses qu'on va voir. Ils étaient distincts parce qu'ils appartiennent à Dieu. Ils sont vraiment son peuple. Dieu est leur Dieu. Deuxièmement, ils sont distincts dans le culte qu'ils pratiquent. La manière dont ils servent leur Dieu est vraiment différente de ce que les Égyptiens ont pu concevoir, de toute façon, de ce que tous les peuples ont pu concevoir. Et troisièmement, ils sont distincts dans la manière dont Dieu agit avec eux. Dieu les protège. C'est vraiment, ils sont vraiment dans un groupe distinct. Donc, lisons ensemble Exode 8. Exode, le deuxième livre de la Bible, le chapitre 8 à partir du verset 16 jusqu'à 9, 7. Donc, Exode 8, 16. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant le Pharaon. Lorsqu'il sortira pour aller près de l'eau, tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses point partir mon peuple, je vais lâcher contre toi des mouches venimeuses, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches, ainsi que le sol sur lequel il se trouve. Mais en ce jour-là, je ferai une distinction pour le pays de Goshen, où se tient mon peuple. Et là, il n'y aura pas de mouches, afin que tu reconnaisses que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Je mettrai une démarcation libératrice entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Et l'Éternel fit ainsi. Il vint une masse de mouches venimeuses dans le palais du Pharaon, dans la maison de ses serviteurs et dans tout le pays d'Égypte. Le pays fut dévasté par les mouches. Le Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Moïse répondit, « Il n'est pas régulier d'agir ainsi, car nous offririons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en horreur aux Égyptiens. » Et si nous offrons sous les yeux des Égyptiens des sacrifices dont ils ont en horreur, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons plutôt 3 jours de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Le Pharaon dit, « Moi, je vais vous laisser partir pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignez pas en y allant. Et intercédez pour moi. » Moïse répondit, « Voilà, je sors de chez toi et j'intercéderai auprès de l'Éternel. Demain, les mouches s'écarteront du Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que le Pharaon ne continue pas à nous tromper en refusant de laisser partir le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. » Moïse sortit de chez le Pharaon et il intercéda auprès de l'Éternel. L'Éternel agit selon la parole de Moïse. Et les mouches s'écartèrent du Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas une. Mais le Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et ne laissa point partir le peuple. Chapitre 9. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le Pharaon et tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, si tu le retiens encore, la main de l'Éternel sera sur ton cheptel qui est dans la campagne, sur les chevaux, sur les ânes, les chameaux, le gros et le petit bétail. Il y aura une peste très grave. L'Éternel distinguera entre le cheptel d'Israël et le cheptel de l'Égypte. Il ne périra rien de tout ce qui appartient aux Israélites. L'Éternel a fixé l'échéance en disant, « Demain, l'Éternel fera cela dans le pays. » L'Éternel fit ainsi. Dès le lendemain, tout le cheptel de l'Égypte mourut. Et il ne mourut pas une seule bête du cheptel des Israélites. Le Pharaon envoya prendre des informations, et voici que pas une bête du cheptel d'Israël n'était morte. Mais le cœur du Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point partir le peuple. Aux deux occasions où Moïse se présente devant le Pharaon pour lui dire ce que l'Éternel va faire, pour lui rappeler sa demande, laisse partir le peuple, Dieu, Moïse rapporte les paroles de Dieu et Dieu s'exprime de cette façon, laisse partir mon peuple. C'est clair, c'est pas juste laisse partir les Hébreux. Les Hébreux que je te demande de laisser partir, c'est mon peuple. Ils m'appartiennent. Donc déjà, même dans la manière dont Dieu, l'Éternel, s'adresse à Pharaon, il met une grande distinction. Les Israélites, les Hébreux, ne sont pas seulement des êtres humains comme les autres. Ils m'appartiennent. Ils sont ma propriété. Et même, on voit au verset 1 du chapitre 9:1, qui spécifie, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Il est leur Dieu. Il n'est pas le Dieu des autres nations. Il n'est pas le Dieu des Égyptiens, bien qu'il soit le Créateur de toute la terre. Il est le Dieu spécifiquement du peuple qu'il a choisi, qu'il a élu. Comment ça se fait? C'est parce qu'il le fait sous la base de la promesse faite à Abraham, que sa descendance formerait un peuple qui serait son peuple, il allait être son Dieu, leur Dieu. Et les Hébreux n'ont pas vraiment eu le choix. Dieu les a pris, ils lui appartiennent. Ce n'est pas parce que les Hébreux étaient naturellement plus portés à adorer le vrai Dieu. Au contraire, on le voit dans l'histoire, dans le reste du récit, au cours d'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, même dans les Juges, que malheureusement, ils ont une tendance, comme tous les hommes sur la terre, à se tourner vers des faux dieux, des idoles, à adorer les créatures plutôt que le Créateur. Et les Hébreux avaient cette même tendance-là. Donc, Dieu ne les a pas choisis parce qu'ils étaient meilleurs, plus portés à adorer le vrai Dieu. D'ailleurs, on apprend lorsqu'ils seront finalement arrivés dans leur terre promise, à l'époque de Josué, lorsqu'ils sont rendus en Canaan, Josué leur dit, dans Josué 24, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. » Vous savez qu'il leur dit, vos pères avaient même adoré les dieux égyptiens. Là. Enlevez toutes les idoles dans votre peuple, dans votre nation, et servez l'Éternel. Si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, en Égypte, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce n'était pas automatique parce que tu étais un Hébreu que tu voulais servir l'Éternel. Aujourd'hui, on peut faire un parallèle dans la Nouvelle Alliance en Jésus. Dieu a choisi des gens de toutes les nations pour former son peuple. Et je suis convaincu, même si je me souviens un jour d'avoir cru en Jésus, d'avoir accepté le Seigneur, qu'il vienne dans ma vie, je suis convaincu que c'est Dieu qui m'a choisi, qui est venu me chercher. Je suis convaincu que je n'aurais jamais cru s'il ne m'avait pas choisi. Et c'est un sujet de louange que j'ai pour lui, parce que je crois que je n'aurais jamais cru, parce que je ne suis pas mieux qu'un autre homme. Je n'ai pas un meilleur jugement, un meilleur discernement. J'aurais été esclave de mes désirs, esclave du péché. J'aurais voulu assouvir mes propres passions, vivre pour moi-même. Je ne vois pas pourquoi j'aurais voulu vivre pour un Dieu. Mais Dieu m'a choisi, il m'a ajouté à son peuple. Et il a fait de même avec des gens de toutes les nations pour former un peuple qui lui appartienne. Plusieurs nations ici sont représentées. Et nous ne sommes pas seulement une association de plusieurs nations. Nous sommes greffés les uns aux autres et même greffés au peuple d'Israël pour former une nation, un peuple qui lui appartient. Et c'est bon de nous rappeler que nous appartenons à Dieu. Nous l'avons chanté tantôt, « Entre tes mains, j'abandonne ». Comment nous pouvons réussir à faire cela, tout abandonner à Dieu? C'est seulement lorsque nous comprenons que nous appartenons tout entier à Dieu, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes. Tite 2, 13-14 nous le rappelle, « Notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus, s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. » Donc, on voit on va revenir là-dessus, mais il y a une incidence, une implication de faire partie du peuple de Dieu. Nous sommes purifiés par lui, par Jésus, et nous devenons zélés pour les œuvres bonnes. Nous changeons de vie lorsque nous appartenons au peuple de Dieu. Donc, les Hébreux étaient distincts parce qu'ils formaient le peuple de Dieu, et Dieu le déclarait, « Je suis leur Dieu, ils sont mon peuple. » Ils étaient distincts aussi dans la forme du culte qu'ils rendaient, qui était différent. Leur manière d'adorer Dieu était différente. Et la requête de Moïse, qui était la requête de Dieu, c'était de laisser partir les Hébreux pour qu'ils aillent adorer Dieu dans le désert. Adorer Dieu, ça comporte plusieurs choses, mais entre autres, et ce qui était le plus important, c'était qu'ils allaient ensemble offrir des sacrifices. Offrir des sacrifices d'animaux à Dieu. Il y avait plusieurs raisons pour le faire. La première, c'était pour obtenir son pardon, sa faveur, sa grâce. C'était aussi une marque de reconnaissance. C'était aussi un moyen d'être en communion avec Dieu, d'alimenter, d'améliorer même la relation. C'était un moyen même d'être en communion les uns avec les autres. Mais ça consistait à offrir des sacrifices d'animaux. Mais Dieu il dit, si je veux qu'ils sortent, c'est afin qu'ils me servent. Et le pharaon se méfiait d'eux. Il ne voulait pas qu'ils se sauvent. Et il leur permet d'adorer leur Dieu, mais rester dans le pays. Faites-le ici, là, en Égypte. Vous n'avez pas besoin de sortir pour cela. Mais Moïse lui répond que les sacrifices qu'ils vont offrir, tuer des animaux, c'est en horreur aux Égyptiens. Puis c'était évident que les Égyptiens allaient se retourner contre eux, les lapider, les faire mourir. Donc Moïse plaide, laisse-nous partir. Nous devons logiquement partir. On ne peut pas faire ça ici, dans une terre, dans un pays où ce n'est pas permis, où c'est même en horreur aux habitants. Nous devons nous retirer pour pouvoir servir notre Dieu. Certains, en lisant cela, ont conclu que Moïse usait un peu de tromperie. Il a dit un petit mensonge au Pharaon, parce qu'en réalité, le plan, c'était de partir et d'aller dans la terre promise. Et je ne crois pas que c'était un mensonge. Pour deux raisons. Premièrement, c'est Dieu lui-même qui a dicté à Moïse quoi dire, et Dieu ne ment pas. C'est-à-dire que si le Pharaon avait accepté qu'il fasse 3 jours de marche, qu'ils allaient servir Dieu dans le désert, il serait revenu. Ils auraient respecté leur entente. Je ne sais pas ce qui se serait passé par la suite, c'est hypothétique. Mais la proposition, elle était réelle. Mais c'est le Pharaon lui-même qui a refusé cela. Et il s'est entêté. Et Dieu savait qu'il allait refuser, qu'il allait endurcir son cœur jusqu'à 10 fois, jusqu'à ce que finalement les Égyptiens chassent les Israélites pour toujours. Donc, ils allaient éventuellement être chassés, allaient pouvoir aller dans leur terre. Mais pour l'instant, la demande, elle était vraiment d'aller adorer Dieu dans le désert. Et deuxièmement, ce n'est pas quelque chose que Moïse a inventé pour exagérer. C'est vrai que c'était en horreur aux Égyptiens. L'histoire de l'Égypte nous le démontre. Les historiens, les archéologues démontrent que les Égyptiens tenaient en très haute estime les animaux, même peut-être plus que la civilisation américaine aujourd'hui, qui a fait des animaux presque... Ils ont presque une valeur supérieure aux êtres humains. C'est plus important de conserver un pitbull à la maison, même s'il risque de mordre le facteur qui arrive. Mais on dirait souvent que les animaux ont plus de valeur que les humains, dans certains cas, dans la réaction que les gens ont. Mais à l'époque d'Égypte, c'était encore pire, parce qu'ils avaient fait de plusieurs animaux des dieux, ou l'emblème de leur dieu. C'était des animaux sacrés qu'ils ne voulaient pas tuer. Ils adoraient ces animaux-là qui représentaient les dieux. Ils en faisaient des images, ils faisaient des tableaux sur les murs qu'ils adoraient, des statues. Le bœuf représentait Osiris. Parfois, c'était un bouc. Le taureau représentait Apis. Pour ceux qui ont vu Astérix et les 12 travaux, là, par Osiris et par Apis. La vache représentait la déesse Isis. Le bouc représentait Amon ou Amon. Ce sont tous des animaux qui étaient justement offerts en sacrifice par les Hébreux, que Dieu recevait comme une offrande de bonne odeur. Mais eux ne pouvaient pas supporter de voir qu'on offre en sacrifice pour un Dieu un animal qui est lui-même une représentation divine. Et ils ne tuaient pas eux-mêmes ces bêtes à cause de leur croyance. Même on lit dans l'histoire des conquêtes des Perses. Un jour, les Perses faisaient une grande bataille contre les Égyptiens et ils ont usé d'une stratégie, ils ont gagné une grande bataille en mettant comme un bouclier d'animaux devant eux. Et l'armée avançait, mais devant eux, il y avait des bœufs et des moutons, toutes sortes d'animaux, et les Égyptiens n'ont pas osé tirer. Finalement, ils se sont fait rentrer dedans. Donc, le culte que les Hébreux rendaient à l'Éternel était vraiment différent de celui des Égyptiens. En plus, les Hébreux n'adoraient qu'un seul Dieu, et ils osaient prétendre qu'il y avait un seul Dieu, créateur de tout, et que les autres dieux étaient faux, ou du moins, en tout cas, qu'ils étaient inférieurs. C'était peut-être pas encore clair que tous les dieux qu'adoraient les Égyptiens, en réalité, n'existent même pas, mais c'était clair que l'Éternel est plus puissant que tous ces dieux-là. Et Dieu avait commencé à le montrer, ça. Et d'ailleurs, par les trois premières plaies que nous avons étudiées, Dieu a montré sa puissance par-dessus, qui surpasse la puissance des dieux égyptiens. En changeant l'eau du Nil en sang, il venait de montrer que le Nil, qu'ils adoraient comme étant un dieu, même ils arrivaient qu'ils jettent des enfants, ils offraient en sacrifice des enfants au dieu du Nil. Bien, Dieu montrait qu'il était beaucoup plus puissant que le Nil et qu'il pouvait changer son eau, qui était source de vie pour le peuple, en sang. Le Nil était incapable de se défendre. Plus tard, il a confondu leur déesse de la fertilité, qui était très souvent représentée par une grenouille. Eux-mêmes, lorsqu'ils entendaient les grenouilles croasser, ils disaient « Ah, fertilité! » Mais Dieu les multiplie par milliards, ils envahissent partout, au point où ce que les grenouilles étaient devenues un sujet d'horreur pour les Égyptiens. Ce qui était supposé être leur déesse de la fertilité est devenu quelque chose qu'ils voulaient se débarrasser. Et la déesse elle-même n'a pas été capable de rien faire face à la parole de Dieu. Même le pharaon a demandé à Moïse qu'il les débarrasse des grenouilles. Dieu a aussi confondu leur déesse de la magie, parce que les petits insectes représentaient souvent la puissance de la magie. Si on voyait un nuage d'insectes, c'était comme si c'était la magie qui était là. Et leur déesse de la magie était représentée parfois par un insecte, dont ils adoraient plusieurs insectes, dont le scarabée, qui était l'emblème de l'immortalité. Puis il y avait des insectes partout, au point où ils ont eu ça en horreur. Et dans la quatrième plaie, on voit que Dieu utilise encore un insecte pour confondre toutes leurs croyances. Et les insectes, même, en plus de les envahir, les attaquent. Les insectes, des mouches venimeuses qui les rendent malades. Je ne sais pas quel dommage que ça a causé, mais on dit que tout le pays a été dévasté à cause de cela. C'est sûr que tout a été paralysé. Il ne devait plus y avoir de commerce, plus de travaux. C'est comme si toute la vie a cessé. Les insectes se tournaient contre le peuple égyptien, sous les ordres de l'Éternel. Mais ce qui venait vraiment leur donner un grand coup, c'était cette cinquième plaie-là. Justement, Moïse vient de dire qu'ils avaient en horreur les sacrifices qu'ils offraient parce qu'ils osaient tuer des animaux qu'ils considéraient sacrés. Mais la cinquième plaie attaque justement leurs animaux. Presque tous les animaux qui sont mentionnés, qu'ils vont mourir de la peste, et peut-être même tous, étaient vénérés par les Égyptiens. Il dit « La main de l'Éternel sera sur ton cheptel, c'est-à-dire sur l'ensemble de tes troupeaux qui est dans la campagne. Ils vont mourir, il va y avoir une grande peste. » Et on se rend compte à quel point elle était grande, puisque tous les animaux qui étaient dans la campagne ce jour-là sont morts, une grande contagion. Et les animaux qu'ils trouvaient extrêmement précieux, sacrés, étaient morts devant leurs yeux, sous la parole de l'Éternel. Certains se demandent comment c'est possible, s'ils sont tous morts à ce moment-là, que rendu à la dixième plaie, Dieu fait mourir le premier-né, même des animaux. Mais si on lit le texte attentivement, ce ne sont pas tous les animaux des Égyptiens qui sont morts, c'est tous les troupeaux qui étaient dans la campagne ce jour-là. Il y en avait sûrement beaucoup qui étaient dans les étables, mais Dieu dit « tous ceux qui sont dans la campagne vont mourir ». Mais c'était quand même très considérable. Le culte que Jésus nous demande d'offrir à notre Dieu est vraiment différent aussi. Nous n'avons plus aujourd'hui à offrir des sacrifices d'animaux, parce que comme on l'a chanté, Jésus s'est donné lui-même, il s'est donné en sacrifice. Et la valeur du sacrifice de Jésus est tellement grande, elle est infinie, que ça devient superflu, même inutile, de sacrifier des animaux. Ce serait même une abomination, un sacrilège que de sacrifier un animal pour obtenir le pardon. Ça veut dire qu'on ne croit pas au sacrifice de Jésus, si on le fait. Jésus est l'agneau qui a été sacrifié pour nous. Donc, la manière de servir Dieu, ce n'est plus en faisant cela aujourd'hui. Ça se résume Dans le fond, c'est de suivre tous les commandements de Jésus, tout ce qu'il nous a prescrit, et qu'il résume à ce commandement, « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Vous voyez quel amour j'ai eu pour vous? J'étais prêt à mourir pour vous, j'ai tout donné. J'ai laissé de côté toutes les passions qu'un homme pourrait avoir, tous les rêves qu'un homme pourrait avoir, les projets, toute la dignité qu'on ne veut pas perdre, l'honneur qu'on ne veut pas perdre, tout ce qu'un cœur pourrait désirer, j'ai mis ça de côté pour vous. Et j'étais prêt à mourir. Faites comme moi envers vos frères et sœurs. C'est ça le commandement. Donc, le chrétien, la manière d'adorer son Dieu devient vraiment très différente de toutes les religions sur la terre. C'est même incompréhensible. Même les gens, si on leur dit que c'est ça qu'on veut faire, ils ne le croiront pas tant qu'ils ne l'auront pas vu. Aimez-vous les autres comme je vous ai aimé, Jésus dit dans Jean 15. Et notre amour fraternel, lorsqu'il est réel et visible, va produire l'une de ces deux choses-là. Il ne laisse personne indifférent. Soit que les gens vont croire, ils vont se convertir, ils vont dire « Wow, ils sont vraiment des serviteurs de Dieu. Leur Dieu est réel. Et le Seigneur Jésus qu'ils suivent est réel. » Ou ils auront cela en horreur, un peu comme les Égyptiens qui avaient en horreur l'adoration de Dieu. Et ils vont nous rejeter, voire même nous persécuter. Mais servir notre Dieu à la manière dont Jésus nous le demande est quelque chose qui nous distingue vraiment. Que nous arrivions à nous aimer alors que nous provenons de toutes les nations, que nous sommes à des groupes d'âge différents, à des rangs sociaux différents, avec un passé différent, des intérêts différents, mais que nous puissions nous aimer, nous entretenir, ça dépasse la compréhension humaine. Et c'est un miracle que Dieu fait dans son Église. Donc, les Hébreux étaient distincts parce qu'ils formaient un peuple qui appartenait à Dieu. Dieu était leur Dieu. Ils étaient distincts aussi dans le culte qu'ils rendaient à Dieu. C'était très différent de ce que les Égyptiens rendaient comme culte à leur Dieu, qui était vraiment une invention humaine. Ils étaient aussi distincts dans la manière dont Dieu agissait envers eux. C'est le troisième et dernier point. La manière dont Dieu les protégeait. Et en préparation de la quatrième plaie pour les mouches venimeuses, Dieu dit au Pharaon qu'il va marquer une distinction. Dans 8:18, il dit, « Mais en ce jour-là, je ferai une distinction pour le pays de Goshen où se tient mon peuple. Là, il n'y aura pas de mouches, afin que tu reconnaisses que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce peuple. Je mettrai une démarcation libératrice entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. » Donc, cette plaie n'était pas seulement un malheur que Dieu envoyait, c'était un signe qui montrait, premièrement, la toute-puissance de Dieu et l'infériorité des dieux égyptiens, mais qui montrait aussi à quel point Dieu voulait protéger, aimait son peuple, qu'il était parmi eux, qu'ils étaient sous sa protection. Donc, Dieu enverra des mouches venimeuses partout en Égypte, mais les Hébreux en seront épargnés. Et le Pharaon reconnaîtra même que Dieu protège Israël. Et effectivement, tout arrive comme Dieu l'avait dit, selon sa parole, au point où le Pharaon même déclare, « OK, je vais laisser partir Israël. C'est correct, allez dans le désert, allez adorer votre Dieu. » Donc, c'était devenu évident pour lui, là. On peut même dire que Pharaon croyait en Dieu. Mais il était loin de lui être soumis. Mais après que Moïse ait intercédé pour lui, à la demande de Pharaon, et que l'Éternel enlève toutes les mouches, il n'en restait pas une, mais le Pharaon change encore d'idée, il ne tient pas parole, ce qui est tout à sa honte. Et on voit là le grand contraste entre Moïse et Aaron, l'Éternel qui tient parole, et le Pharaon qui manque à sa parole systématiquement, et aux yeux même de ses serviteurs, aux yeux des magiciens, aux yeux de tout le peuple. Il se condamne lui-même. C'est tout à sa honte, et c'est tout à la gloire de Dieu. À l'annonce de la cinquième plaie, où Dieu dit qu'il va envoyer une peste parmi le troupeau, Dieu déclare encore qu'il va faire une distinction. Chapitre 9, verset 4. « L'Éternel distinguera entre le cheptel d'Israël et le cheptel de l'Égypte. Il ne périra rien de tout ce qui appartient aux Israélites. » Donc, il va y avoir beaucoup de mortalité parmi tes troupeaux qui sont dans la campagne, mais aucun animal des Israélites ne périra. Et tout se passe selon la parole de l'Éternel. Et le Pharaon n'était pas insensible à cela. On le voit, il envoie prendre des informations. Donc, il envoie ses serviteurs en Goshen pour qu'ils lui fassent rapport. Qu'est-ce qui est arrivé au troupeau des Hébreux? Ils lui reviennent et lui disent, il n'y en a aucun qui est mort. Ça aurait dû le troubler, là. Il aurait dû dire, là, qu'est-ce qu'on peut face à un Dieu si puissant, qui peut envoyer un malheur, mais en visant d'une manière si spécifique et en protégeant son peuple, qu'est-ce qu'on peut faire contre son peuple? Ils sont sous la protection de l'Éternel. Il aurait dû se soumettre tout de suite, mais pourtant, il endurcit son cœur et refuse de laisser partir. Donc, les plaies ne sont pas montrées seulement comme un jugement sur l'Égypte. Elles servent aussi à montrer la protection que Dieu offre à son peuple. Les Hébreux ne sont pas seulement en dehors de cela et Dieu punit seulement l'Égypte. Non, ils sont là, mais ils sont épargnés. D'autres peuples autour n'étaient peut-être pas concernés, mais les Hébreux étaient vraiment concernés. Ils étaient là. Normalement, lorsqu'il arrivait une grande catastrophe comme cela, une peste, des mouches venimeuses ou les grenouilles qui arrivent partout, qui envahissent, ils auraient subi eux aussi cette même condamnation-là. Mais Dieu présente cela comme une main protectrice qui les épargne. On pourrait peut-être dire même avoir l'idolâtrie qui s'est infiltrée chez les Hébreux, qu'ils auraient peut-être mérité eux aussi de subir ces plaies. Mais Dieu leur fait grâce, il les épargne. Même s'ils ne sont pas purs à 100%, ils sont sûrement idolâtres, ils sont sous la protection de Dieu. Et c'est maintenant clair pour le Pharaon, s'opposer à Israël, c'est s'opposer à leur Dieu, c'est s'opposer à l'Éternel. Mais ils décident quand même de continuer à s'opposer. C'est une chose surprenante et insensée, mais il continue. Et nous sommes aujourd'hui le peuple de Dieu, et ce qui nous distingue, c'est aussi cela, c'est que nous sommes sous la protection de Dieu. Ça signifie premièrement que nous serons épargnés lors du jugement dernier. Ce que pasteur Isaïe nous a rappelé. Un jour viendra où Dieu va juger les nations. Et il est un Dieu à craindre et terrible. Et la condamnation, la grande plaie qui va toucher toute l'humanité, serait tombée sur nous aussi. Parce que nous étions pécheurs, nous sommes impurs, nous ne sommes pas encore arrivés à la perfection. Nous avons péché comme tous les hommes. Et tous les hommes, puisqu'ils ont péché contre Dieu, subiront cette condamnation éternelle. Sauf le peuple de Dieu. Tous les membres de Dieu, les membres du peuple de Dieu, sans exception, seront épargnés. Ils auront la vie sauve, la vie éternelle. Et jusqu'au moment du jugement dernier, la Bible nous déclare aussi, même si on ne s'en aperçoit pas toujours, nous sommes sous la protection de Dieu. Premièrement, Dieu ne permet pas que tout le mal dont nous pourrions être atteints nous arrive. Parfois, il répond toujours à nos prières, mais il entend nos prières et parfois, il acquiesce à nos requêtes et il nous protège, il met sa main protectrice. Il nous évite beaucoup de difficultés, d'accidents qui pourraient nous atteindre. Mais il nous protège particulièrement des attaques de l'ennemi. Comme Pharaon représente à cette époque-là celui qui est en opposition directe à l'Éternel, aujourd'hui nous avons un opposant direct, c'est Satan qui veut attaquer l'Église et il s'y démène. Il le sait très bien que s'il attaque l'Église, c'est Dieu qui l'attaque. Il sait que l'Église est le peuple de Dieu. Il sait que l'Église est sous la protection de Dieu, mais il s'obstine, il a le cœur endurci et il continue d'attaquer l'Église. Il peut réussir à faire tomber beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Il réussit à faire beaucoup de dommages. Mais il ne peut pas enlever quelqu'un qui est dans le creux de la main de Dieu, qui est dans le peuple de Dieu. Il ne peut pas enlever la foi à un véritable enfant de Dieu. Il envoie beaucoup de tentations aux chrétiens. Et c'est vrai que nous subissons beaucoup de tentations de la part de l'ennemi. Mais Dieu nous dit que toutes ces tentations-là, il les utilise en réalité comme des épreuves pour nous. Donc, elles deviennent positives. Même il nous invite dans Jacques à considérer toutes les épreuves comme un sujet de joie, puisqu'elles produisent pour nous une foi plus forte. Elles augmentent notre patience, notre persévérance. Elles servent à nous corriger, nous instruire, nous avertir, nous rendre persévérants, nous purifier. C'est comme si Dieu utilisait Satan, malgré lui, pour nous éprouver et finalement nous faire du bien. Alors que Satan pense nous persécuter, nous écraser, nous emmener à la mort, Dieu utilise cela pour nous emmener à la vie. Nous sommes sous sa protection. En réalité, c'est comme si Satan n'a aucun réel pouvoir sur nous. Il a les mains liées. Mais il continue de s'opposer jusqu'à la fin où, finalement, Dieu aura son mot final et Satan ne pourra plus rien faire pour l'éternité. Il sera jeté dans les flammes de feu. Et Dieu, d'ici là, continue de faire ressortir sa toute-puissance et sa grâce envers nous. Donc, est-ce que les chrétiens sont davantage semblables aux autres êtres humains sur la terre ou ils sont distincts? Je pense que l'abîme souligne davantage le fait que nous sommes distincts. Nous le rappelle. Nous sommes distincts parce que nous formons le peuple de Dieu. Nous lui appartenons. Nous n'appartenons plus au monde. Nous n'appartenons plus à Satan. Nous ne sommes plus sous son règne. Nous n'appartenons plus à nous-mêmes, à notre propre cœur. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes devenus ses serviteurs, ses esclaves. Mais encore plus chaleureux que ça, Dieu utilise l'image d'une famille. Nous sommes devenus ses enfants. Il est devenu notre père. Nous sommes distincts aussi dans la manière dont nous servons Dieu, qui devrait avoir un impact dans toutes les sphères de notre vie. Nous suivons Jésus-Christ qui nous commande de nous aimer les uns les autres. Puis nous sommes distincts dans la manière dont Dieu nous protège. Plus nous en sommes conscients de cela, plus nous sommes conscients que Dieu a un plan dans nos vies, qui ne perd pas le contrôle, qui veut notre bien, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais ça ne peut faire qu'autrement que nous donner une paix, une joie dans toutes circonstances. Enlever nos inquiétudes, enlever notre anxiété. Être prêt à lui obéir même lorsque l'ennemi est là et nous menace. Persévérer même dans l'adversité. Donc, sachant que nous sommes un peuple distinct, nous devrions vivre conséquemment à cette vérité. De manière conséquente à notre citoyenneté céleste. Paul nous le rappelle dans 2 Corinthiens 6. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Ne pensez pas que vous êtes avec eux. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et moi, je vous accueillerai. Quelle part y a-t-il entre Dieu, le Dieu que nous servons, et les idoles? Nous devons très souvent, régulièrement, même voire quotidiennement, sonder notre cœur pour savoir s'il y a une chose qu'on est en train d'aimer, on est en train de mettre sur un piédestal et qui prend plus d'importance que Dieu. C'est peut-être pas une idole que nous avons sculptée, que nous adorons. Ça peut être plein de choses. Ça peut être un loisir que nous mettons en priorité. Ça peut être le travail. Ça peut être le temps même que nous passons en famille. Des choses qui, en soi, peuvent être bonnes, mais lorsque nous les plaçons comme plus importantes que Dieu, lorsque ces choses-là influencent nos choix, nos décisions, nous poussent même à pécher et à accepter le péché, nous poussent à négliger Dieu, ça devient des idoles dans nos vies. Et quelle part y a-t-il? Dieu dit, séparez-vous de tout cela. Retournez à moi, adorez-moi seul. Jésus nous invite aussi à montrer notre comportement qui nous distingue le plus. C'est l'amour fraternel, l'amour que nous avons les uns pour les autres. Dans Jean 13, 35, Jésus dit, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tous sont invités à entrer dans le peuple de Dieu. Et le meilleur moyen pour qu'ils croient, c'est de se comporter comme étant véritablement le peuple de Dieu. Si nous nous aimons, ils vont voir, ils vont reconnaître que nous sommes réellement les disciples de Jésus. Et Jésus dit dans Jean 17, « Ce n'est pas pour eux seulement que je te prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. » S'aimer les uns les autres, il y a une caractéristique très importante et essentielle, c'est que nous devrions être unis. Lorsqu'il y a discorde, querelle, séparation, on ne peut pas dire qu'il y a de l'amour fraternel. La caractéristique première, c'est qu'il y a le pardon, il y a l'unité et l'harmonie. Et Jésus dit, afin qu'ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Prions un instant. Seigneur Dieu, tu es notre Dieu, nous sommes ton peuple. Nous voulons te suivre, chacun de nous. Nous te disons, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous voulons le faire d'un cœur sincère. Montre-nous quelles idoles nous adorons. Montre-nous l'amour que nous devrions te donner en exclusivité et à ton peuple. Montre-nous comment nous le partageons parfois avec d'autres choses. Avertis-nous avant qu'il soit trop tard, que nous ne t'abandonnions, que nous ne t'oublions. Redresse-nous, corrige-nous. Utilise les épreuves dans nos vies pour nous rappeler à toi, nous faire grandir dans la foi, nous rendre persévérants. Permets-nous d'être un peuple digne d'être appelé le peuple de Dieu, de le montrer par un amour fraternel, par une unité dans ton assemblée. Rends-nous capables de te servir sans honte, d'être capables de le dire aux autres, d'être prêts même à mener un style de vie qui est très différent du style de vie des Montréalais, des Québécois, ou des gens de nos familles, de notre culture, de notre enfance. Donne-nous le courage, Seigneur, de vivre en conformité à ta parole. Rends-nous purs. Donne-nous le désir même de nous purifier. Et permets que par ton esprit, nous en soyons capables. Et si nous osons te le demander, c'est parce que nous avons confiance que tu nous écoutes, parce que nous te parlons au nom de ton Fils Jésus qui est mort, qui est ressuscité et qui vit et qui intercède pour nous. Amen.